Vous êtes sur RTL.
Faire.
Jusqu'à 10h sur RTL, nous voilà bien avec Flavie Flamand.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. On est samedi. Êtes-vous de bonne humeur ce matin? Si ce n'est pas le cas, vous le serez, c'est garanti, certifié, après nous avoir écoutés entre 9h15 et 10h sur RTL. Et aujourd'hui, l'avez-vous remarqué, de bonnes ondes circulent sur notre antenne. Oui, car cette semaine, on teste les abonnements téléphoniques. Comment s'y retrouver et choisir celui qui correspond le mieux à nos besoins sans devoir payer des lingots d'or chaque mois? Réponse dans un instant. Je parlais de bonnes ondes. Le micro-ondes est-il dangereux pour notre santé? On saura tout grâce à vous, Jean-Michel Courtier. Vous êtes professeur de physique. Bonjour, professeur.
Bonjour.
Oh là là, ça fait une éternité que j'ai pas rencontré un prof de physique. Hein. J'espère qu'on va bien se comprendre.
Avec plaisir.
C'est facile, la physique?
Oui, oui, mais c'est dans la vie de tous les jours, on est en permanence confronté à la physique.
Ah bah déjà dans sa cuisine.
On s'en aperçoit pas, mais dans la cuisine,
on
physique et chimie.
Très bien. Vous nous répondrez tout à l'heure à cette grande question. Quels sont les gestes qui sauvent en cas d'accident domestique? On vous retrouve tout à l'heure, Yann Gillard, bonjour.
Bonjour Flavie.
Non mais dites donc, vous, ça fait pas 3 semaines que vous êtes avec nous, c'est génial.
Je vais y prendre goût.
Oui, mais nous aussi, la preuve, vous êtes sapeur-pompier et vous serez là pour clore notre atelier secourisme commencé il y a 15 jours. Merci à vous d'être là.
Allô? Non mais allô quoi? Allô? Allô? Je sais pas, vous me recevez?
Bonjour Alexandre Lukil.
Bonjour.
Soyez le bienvenu sur RTL, petit clin d'œil à Nabila en ce samedi matin. Vous êtes journaliste à Capital.fr. Avec vous, on va s'intéresser justement à nos abonnements téléphoniques. Est-ce qu'il y a une grande différence de prix entre les abonnements des opérateurs en réalité aujourd'hui?
Alors non, dans l'ensemble non. On a calculé un petit peu avec des comparateurs au sein de la rédaction. Entre les grands et les petits opérateurs, le delta il est d'environ 10 euros.
D'accord, quels sont les grands et les petits?
Bah, les grands c'est Bouygues, SFR, Orange, Free. Mm-hmm. Les petits c'est des noms moins connus mais toujours très utiles quand même. C'est Pritel, c'est Soch et peut-être Auchan. D'autres de ce style qui sont très intéressants.
Alors vous nous dites pas une grande différence, c'est quand même 10 euros par mois.
Bien sûr, c'est toujours d'accord. 10 euros, c'est bon à prendre, hein, y a rien à dire là-dessus.
On est bien d'accord. Quels sont les différents types de forfaits mobiles? Qu'est-ce qu'ils impliquent en réalité?
Grosso modo, il y a 3 types de forfaits mobiles. Hein. Il y a les forfaits mobiles qui sont à bas coût, qui sont entre 1 et 5 euros. Alors il faut pas avoir grand-chose dans ce forfait, on n'aura pas grand-chose, on aura quelques heures d'appel et un peu de données. Il y a les forfaits qui constituent la plupart du marché, qui sont là où on a appel, SMS illimité. Et ensuite, c'est l'enveloppe internet qui change, c'est-à-dire que on se retrouve entre 5 et 60 gigaoctets selon les forfaits. Et ensuite, on a les forfaits plus haut de gamme qui comprennent tout ça, mais qui en plus sont très souples sur les communications à l'international.
D'accord. Vous parliez des forfaits illimités. Ils sont vraiment illimités ou c'est du pipeau?
Alors ça dépend. C'est-à-dire que il faut pas abuser. C'est-à-dire que je crois que selon les opérateurs, au bout de 3 heures consécutives d'appel, l'appel se termine automatiquement parce qu'on peut pas continuer plus longtemps. Faut envoyer des milliers de SMS avant de pouvoir dépasser le forfait SMS. Et concernant par contre Internet, c'est un peu plus fourbe Internet, c'est plus compliqué.
D'accord, c'est-à-dire?
C'est-à-dire que si vous avez un forfait à 40 gigaoctets, que vous les consommez intégralement, vous aurez toujours Internet, c'est-à-dire que c'est illimité, vous en aurez autant. Par contre, le débit est tellement bridé que même une recherche Google ou une recherche sur un moteur de recherche, ce sera très compliqué tellement la vitesse sera lente.
Mais alors comment je peux savoir quel est le forfait qui me va bien justement? Parce que ça, on le réalise trop tard, je dirais, quand on l'a déjà pris.
Oui, tout à fait. Bah, alors ça, il faut faire un travail de recherche en amont.
Ouais.
Il y a des comparateurs pour ça. Nous, on travaille souvent avec le comparateur Arias qui est très très bien là-dessus, il nous donne beaucoup d'infos. On peut choisir à la fois tout ce qui est gigaoctets, nombre d'appels, le prix, si on veut avec ou sans engagement. Donc vraiment, rechercher un forfait téléphone aujourd'hui, c'est assez facile.
On se base sur quoi pour choisir son forfait? Quelles sont les bonnes questions à se poser?
La première des choses à se demander, à regarder, c'est le réseau. Parce que on a beau avoir le meilleur forfait du monde, si on n'a pas de réseau, ça ne sert à rien. Donc, pour ça, il y a des cartes qui sont très utiles, notamment l'ARCEP, c'est le gendarme des télécoms.
L'ARCEP. D'accord.
Exactement, c'est l'équivalent, c'est un régulateur des télécoms. Il publie chaque mois ou chaque trimestre, je ne sais plus, une carte interactive où on peut zoomer sur sa ville et on voit quel opérateur couvre le mieux, en fait, notre zone.
Ah,
et c'est très utile.
D'accord. 5G, 4G, 3G, même combat?
Ah bah non, parce que la 5G elle est pas encore...
Pardonnez-moi, j'y connais rien.
Non, non, la 3G, normalement c'est le minimum à avoir. Normalement tout le monde est en 4G.
D'accord.
Et la 5G arrive évidemment.
D'accord, ok. Donc la 4G aujourd'hui ne couvre pas l'ensemble du territoire.
Alors elle couvre plus de 95% de la population. Les territoires, c'est une mesure différente.
Okay.
Mais voilà, c'est l'immense majorité qui est couverte.
Eh ben, moi dernièrement, dans ma région d'origine, le Cotentin, eh bien, j'ai eu un E sur mon téléphone.
Le Edge.
C'est quoi ça?
Ah bah le Edge, c'est en dessous de la 2G, c'est en dessous de la de c'est-à-dire que votre c'est ce qu'on a dans le métro quand on a vraiment plus, par exemple dans à Paris, quand on a vraiment plus de réseau,
en fait,
on arrive
edge.
Plus à Edge, ça signifie
donc ça
Edge.
Existe encore.
Ça existe encore? Bah oui, quand
ça sert plus à rien.
Bah en fait, c'est pas que ça sert plus à rien, c'était une technologie qui en son temps a été utilisée, mais aujourd'hui la vitesse de connexion est tellement plus rapide que ça nous paraît tellement désuet qu'on peut plus faire grand-chose avec.
D'accord, donc ceci explique cela.
Voilà.
Vous parliez d'engagement, est-ce que c'est comme l'engagement en amour, ah ben on peut se séparer finalement d'un opérateur, ou est-ce que lorsque l'on prend un forfait, on ne peut pas changer de forfait en cours de route?
Alors, on peut toujours changer un forfait, quoi qu'il arrive. Après, est-ce que ça va nous coûter de l'argent ou pas, c'est la question.
Ah.
C'est-à-dire que si on est engagé pendant 24 mois, c'est sûr que si on résilie au bout de 6 mois, eh ben, il faudra payer l'équivalent des mensualités qu'il vous reste.
Ah, d'accord.
Donc, si vous avez un forfait à 20 euros que vous résiliez et il vous reste 16 mois à faire, c'est 16 fois 20. Donc,
tu m'étonnes.
Donc, forcément.
Faut bien réfléchir.
Alors, attends. Alors, il y a une loi qui permet quand même de réduire un peu la facture là-dessus. C'est une loi Châtel qui permet au bout de la deuxième année de ne payer que 25% de ce qu'on aurait dû payer finalement à l'opérateur. Ça permet aux gens de mieux changer.
D'où l'intérêt de trouver le bon forfait, d'avoir le bon opérateur et peut-être de poser la question aussi, c'est-à-dire auprès de son opérateur, avant de prendre son forfait, c'est de dire, bon, alors attendez, moi si je décide à un moment donné d'aller chez le voisin, qu'est-ce qui va m'arriver, quoi?
Ah bah oui,
sont les questions à poser en fait quand on va prendre un forfait.
Ah oui, tout simplement, regarder la période d'engagement, parce que c'est vraiment ça qui un peu met les menottes sur le client, parce que si on voit que c'est au bout de deux ans seulement qu'on peut changer et qu'on se dit mince, j'ai pas choisi le bon forfait, qu'est-ce qui se passe? Bah là, on se retrouve un peu en train de faire les comptes et en train de se dire ah non, mais je vais pas changer maintenant, je vais payer 300 euros, c'est pas possible.
Jean-Michel Courtier, vous êtes sensible justement à ces questions-là? Vous avez fait attention avec votre forfait?
Oh bah là, moi c'est le truc familial donc,
de base.
Eh
bah oui, mais est-ce que vous êtes sûr que c'est le truc qui vous va bien? Et vous savez combien vous payez tous les mois ou pas?
Alors oui, je sais combien je paye.
Ouais.
Mais en revanche, le souci c'est que ça demande presque d'être professionnel pour aller changer, pour faire etc. et se renseigner etc. Donc je dois dire que de mon côté, j'ai des trucs qui sont pas trop chers. Les forfaits sont SMS pour les enfants.
Voilà.
Et puis tant que c'est pas excessif, je vais pas regarder peu ailleurs.
D'accord. Yann Gillard.
Bon, moi, je trouve que c'est tellement compliqué de changer que du coup, je suis hyper fidèle. J'ai le même forfait depuis 15 ans avec le même opérateur parce que j'ai pas envie de changer.
Est-ce que c'est au même prix? Parce que moi,
je sais pas combien je paye en fait.
Alors voilà, c'est ça. Non, mais pourquoi je pose cette question justement, Yann? C'est que moi, j'ai gardé le même forfait en me disant c'est le forfait hyper adapté pour moi et tout, jusqu'au jour où j'ai comparé avec les forfaits que j'avais pris pour mes enfants et je payais 4 fois plus. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression qu'on réactualise les forfaits et que ce qui nous coûtait un certain prix auparavant peut nous coûter beaucoup moins cher aujourd'hui. C'est une réalité ou pas?
Ah oui, c'est une réalité. Le marché des coûts des télécoms, il est tellement concurrentiel. Qu'il y a des promos, mais les opérateurs sortent des promos tous les mois. C'est une flopée de promotions. Et finalement, on peut très rapidement et très facilement trouver un forfait à 10 balles. Aujourd'hui, les spécialistes à qui je parle me disent que si on paye son forfait plus de 10 euros, on le surpaye.
Oui, bah c'est ça.
Je vais me renseigner.
Oui, mais renseignez-vous, parce que moi, ça a duré 10 ans comme ça. Hein. 10 ans où tout à coup, même mes enfants me disent mais t'as vu ce que tu payes tous les mois? Et j'avais vraiment le sentiment que finalement, j'avais fait une affaire à ce moment-là et que c'en était toujours une aujourd'hui. Jean-Michel Courtier, vous vouliez réagir?
Oui, j'ai quand même changé 2 fois.
Ah oui.
Voilà.
Jean-Michel, le bon élève. Oui, mais moi j'ai changé 2 fois. Bah oui, mais c'est bien. Vous êtes plus averti que nous, monsieur le professeur.
Au début, il y avait des moyens d'avoir des téléphones pas chers,
etc.
Or, quand on était abonné, ils le faisaient pas. Donc, on changeait d'opérateur pour avoir un nouveau téléphone.
Exactement.
Voilà. Et puis après, avec les box.
Alors, il y a plein d'autres questions qu'on veut vous poser justement. On va vous retrouver dans un instant parce que le téléphone vendu avec l'abonnement, est-ce que ça vaut le coup? Effectivement, la fin des mois d'engagement, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a un renouvellement tacite finalement de notre forfait? On va en parler avec vous tout de suite sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Le grand esprit d'un appel local.
Jusqu'à 10h sur RTL,
Flavie Flamand, nous voilà bien.
Nous voilà bien, c'est ce que vous vous direz après cette émission, car vous allez apprendre énormément de choses. Grâce au professeur de physique Jean-Michel Courty, monsieur le professeur, vous n'avez pas mis votre blouse blanche ce matin?
Mais en physique, on n'a pas besoin de blouse.
Ah bah moi, mes vieux profs de physique, ils étaient tous en blouse blanche en ce samedi matin. Vous êtes en civil, mais vous venez nous parler de la cuisine au micro-ondes.
Parce qu'on attend
plein de trucs. On nous dit, oui, c'est pas bon pour la santé, c'est pas bon pour les aliments et tout. Vous nous direz ça dans un instant. Bon, alors si on a un petit problème aussi domestique à la maison, un accident domestique. Allô, ou non mais allô quoi, il y a Yann Gillard qui est ancien sapeur-pompier qui va vous donner tous les gestes qui sauvent. Mais pour l'heure, on continue justement à s'intéresser à nos abonnements téléphoniques. Je dois convenir, ça fait longtemps que Stevie Wonder ne m'a pas appelé. Stevie, si tu m'écoutes. Donc, Alexandre Loukil, vous êtes journaliste à Capital.fr et vous êtes notre meilleur copain parce que grâce à vous, aujourd'hui, on réalise déjà qu'il va falloir se poser certaines questions.
Ah oui.
Voilà. Et surtout, il va falloir se tourner vers notre opérateur, à l'instar de Yann Gillard, pour lui dire, dites donc, ça fait 15 ans que j'ai un forfait chez vous, mais en fait, aujourd'hui, je paye beaucoup plus cher que je ne devrais. Hein?
Ah oui, tout à fait. Bah, de toute façon, les forfaits aujourd'hui disposent au moins de la même chose, si ce n'est plus, à des prix beaucoup, beaucoup moins élevés.
Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire, Yann Gillard, parce que là, vous êtes en train de vous faire en
papaouter.
Non, mais c'est fou. Non, mais c'est hyper important de le dire, ça, parce que vraiment, ceux qui nous écoutent et qui n'ont jamais changé véritablement ou qui ne se sont pas intéressés à leur forfait depuis des années, vraiment, contactez votre opérateur. Aujourd'hui, on nous vend un téléphone avec l'abonnement. Ça vaut le coup ou pas?
Alors, dans l'absolu, non, parce que évidemment, l'opérateur va répercuter le coût du téléphone sur le forfait. Alors, la première année, on va vous dire, imaginons, on prend un super smartphone à 800 euros. La première année, on va payer 30. La deuxième année, 50. Alors, ça va. Sur deux années, on arrive.
C'est comme un leasing, en fait. C'est comme une lock.
Exactement. En fait, c'est-à-dire que sur deux ans, ça va. On va amortir le coût. Par contre, au bout des deux ans, on n'est plus engagé. Et là, par contre, le forfait, il va rester à 50, 60 euros. Et on n'a plus. C'est-à-dire qu'on va payer le coût d'un téléphone qu'on a déjà remboursé de facto en fait sur les deux premières années. Donc il faut absolument résilier. C'est l'UFC Que Choisir qui avait très bien montré la chose. On pourrait économiser 400 euros par an si on résilie un abonnement qui est là-dessus, qui est sur un téléphone bien précis.
À la fin des mois d'engagement, qu'est-ce qui se passe?
Alors à la fin des mois d'engagement, on a deux solutions. Soit on reste avec son forfait actuel, mais ça vaut généralement pas le coup parce que généralement les fins de période d'engagement sont aussi assorties d'une augmentation du prix. On passe de super pendant un an ou deux, vous avez c'est à 8 euros. Ah bah après ça passe à 22. Bah donc là généralement vaut mieux prendre la porte de sortie parce que ça vaut pas le coup de rester. D'autant qu'après que la période d'engagement, il y a aucun frais d'engager.
Attends, ça veut dire qu'il faut changer d'opérateur? C'est ce que vous nous conseillez de faire?
D'opérateur ou de forfait.
D'accord.
On peut rester au sein du même opérateur, mais avec un autre forfait. Il ne faut pas rester avec la même offre. Voilà.
Bon, si un opérateur me tape un peu sur le système et que je veux changer d'opérateur, c'est compliqué?
Ah non, c'est pas compliqué parce que la concurrence, elle est super forte sur ce marché et elle est tellement forte que quand vous présentez chez un concurrent, le concurrent va être tellement ravi qu'il va vous dire ah bah très bien, je m'occupe des frais de la résiliation à votre place,
voyez
du dossier, etc. Ils vous tiennent par la main et ils vous accompagnent. Ils vous avez quasiment rien à faire. Hein. Sur Internet, moi, ça m'a pris 5 minutes de changer mon opérateur.
Voilà. Non, mais ça c'est important, c'est qu'en fait, ils sont tellement contents d'avoir un nouveau client. Que c'est il clean finalement notre dossier quoi,
oui,
il nettoie tout pour
exactement.
Vous. Est-ce qu'il est possible de conserver mon numéro de téléphone?
Ah oui, et c'est gratuit, hein, c'est simple et gratuit. Au moment du changement d'offre de forfait, vous demandez à votre opérateur de ce qu'on appelle faire porter le numéro. C'est de la portabilité du numéro. C'est un droit garanti et voilà, vous n'avez pas après tous les tracas pour en changeant de numéro tout simplement.
Pratique, oui, mais il y a un mais. Pour les pizzas, c'est vraiment pas fameux.
Ah, tu m'étonnes.
Pour les pâtes, c'est carrément pâté.
Allez, bien sûr, vous restez avec nous, Alexandre Loukil, Jean-Michel Courty, vous êtes professeur de physique à la Sorbonne Université. Vous la connaissiez, cette chanson plus bifurée?
Je suis un fan de chanson plus bifurée depuis
c'est
des dizaines d'années.
Donc génial, donc vous la connaissez par cœur. Génial. Comment ça marche un micro-ondes, monsieur le professeur? C'est quoi ce truc-là?
Alors, quand on veut chauffer un aliment, l'idée, c'est de lui apporter de l'énergie. Il y a plein de manières de le faire. On peut faire déjà ça avec sur un gaz, donc on fait chauffer, le gaz va chauffer la casserole, va chauffer le liquide, etc.
Pour l'instant, je comprends.
Voilà, vous pouvez faire des grillades. Là, vous allez avoir soit les braises du barbecue, etc., qui vont émettre de la lumière infrarouge.
Ouais.
Et cette lumière infrarouge va arriver sur l'aliment, elle va le chauffer en surface.
D'accord.
Et ben, le four micro-ondes, c'est pratiquement la même chose que sur ce rayonnement infrarouge. Sauf que, au lieu de chauffer juste en surface, ça va pouvoir aussi aller chauffer en profondeur. En fait, les micro-ondes, c'est des ondes qui vont aller dans les aliments, qui vont faire danser les molécules d'eau. Et les molécules qui dansent à toute vitesse et qui tournent, eh ben, c'est de la chaleur, c'est de l'énergie. Imaginez des valseurs qui tournent sur une piste, ils se rentrent dedans. Ça se met en collision. Et en fait, la chaleur pour un physicien, c'est les atomes et les molécules qui s'agitent à toute vitesse.
Ah, d'accord.
Voilà. Et donc, pour le micro-ondes, faut trouver quelque chose qui agite les molécules vite. On va faire danser les molécules d'eau, elles tournent, elles se cognent et ça chauffe.
Et paf. Mais alors, du coup, ça transforme les aliments ou pas?
Eh ben, quand vous voulez faire cuire un aliment, l'idée, c'est quand même qu'on veut le transformer.
Oui, mais enfin, moi, je veux juste le cuire, quoi.
Donc, donc, ce qui compte, en fait, pour la cuisson, c'est la température à laquelle vous allez porter l'aliment.
Ouais.
Et pas la manière dont vous allez porter la température.
D'accord.
Donc, quand vous chauffez au four micro-ondes, vous avez un truc qui a de l'eau, vous allez le chauffer à une température qui est de l'ordre de 100 degrés. Hein, vous n'allez pas le chauffer à 200 comme c'est l'eau boit 100 degrés, donc c'est voilà. Donc ça veut dire que les transformations que fait un four micro-ondes, c'est les mêmes transformations que quand vous cuisez à la vapeur.
Ah bon?
Et c'est bien plus sain que si vous faites de la friture ou des trucs comme ça où vous allez porter à des températures super élevées, vous allez faire des composés chimiques qui vont pas bien, cancérigènes, etc. Le micro-ondes, ça chauffe juste ce qu'il faut.
D'accord. Mais est-ce que ça détruit les nutriments des aliments?
Alors, il y a des mesures qui ont été faites.
D'accord.
Pour comparer justement, par exemple, avec des antioxydants sur le brocoli. J'ai une publication sur le sujet. On fait des mesures. Eh oui.
Bah non, mais attends, c'est super le brocoli.
Il y a des scientifiques qui ont fait des mesures sur le sujet. Et en fait, quand vous cuisez au micro-ondes, c'est comparable à la cuisson vapeur. C'est pour ça que je vous en parlais. En fait, si vous cuisez à l'eau, ça change pas beaucoup les antioxydants, mais sauf qu'ils partent dans le jus de cuisson. Donc, à moins de faire une soupe et de manger l'eau de cuisson, les nutriments, ils s'en vont.
Ok, je comprends.
Et alors, la friture, la poêle et tout ça, c'est dramatique.
Non, mais alors, attendez, ce que vous êtes en train de m'expliquer pour en revenir à mes brocolis, c'est que moi, si je me casse la tête, vraiment, à la cuisson vapeur, c'est mon truc, donc à cuire mes brocolis à la vapeur, d'accord?
Ouais.
Sur mes plaques, alors qu'en fait, si je les cuis au micro-ondes, ça revient exactement au même?
Ah, bah oui. Vous portez la même température
et vous avez certains,
vous pouvez acheter des trucs pour faire à la vapeur dans le micro-ondes. Hein, vous avez des petits récipients.
Mais je vais avoir les mêmes qualités nutritives que si je faisais à la vapeur. Ok, d'accord. On peut cuisiner au micro-ondes ou est-ce qu'il faut seulement réchauffer les ingrédients?
Ben, on peut cuisiner. Après, ça dépend ce que vous voulez au niveau de la texture. Mais c'est une question de goût. C'est-à-dire, c'est effectivement, comme disait
Cuire un poisson au micro-ondes.
Si on fait de la pizza, faire du poisson. Vous voulez faire des haricots. Vous voulez faire. Moi, le riz, je le fais tout le temps au micro-ondes maintenant. Ça marche super bien. Les pâtes, les pommes de terre.
En fait, ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est que le micro-ondes n'est absolument pas dangereux pour la santé et n'est absolument pas dangereux pour les aliments.
Ah non?
Zéro danger.
Zéro danger, pas plus que les autres modes de cuisson. Et même, j'allais dire, même mieux.
Et pourquoi on a dit que c'était dangereux alors?
Parce que il y a micro-ondes, il y a ondes, on sait pas trop ce que, on sait pas trop ce que c'est. C'est un peu, je pense, une peur de l'inconnu.
D'accord.
Alors, en revanche, je dis pas qu'un four micro-ondes ça a pas de danger parce qu'on est dans la cuisine.
Ah.
Et les instruments de cuisine, à la fin, ils ont tous un petit peu des dangers. On peut se brûler, on peut se couper, on peut, etc.
Mais ça, on va en parler avec Yann Gillard, qui va nous donner des conseils tout à l'heure en cas d'accident avec son micro-ondes, Yann. Hein. On l'avait pas prévu, celle-là, mais...
Non, on l'avait pas prévu.
Non, mais il y a quand même un risque. Il y a deux risques.
À son utilisation.
Mais pas sur la question de l'impact des ondes sur l'aliment.
Bon, revenons sur ces ondes qui dansent, là, parce que ça me parle bien, moi, les danseurs. Voilà. Ils continuent de danser quand j'ai éteint mon micro-ondes ou à partir du moment où j'éteins, tout s'arrête?
Alors,
c'est comme quand ça s'arrête, la musique, tu sais, boum, on s'arrête.
Exactement, la musique s'arrête.
Ouais.
Voilà. En revanche, les valseurs, ils continuent de valser. C'est ce que vous voulez puisque vous voulez chauffer.
D'accord.
Donc en fait, quand vous fermez le four micro-ondes, les molécules d'eau que vous avez bien agitées, ça veut dire que la nourriture, elle est chaude, elle va rester chaude.
D'accord.
En revanche, les micro-ondes qui agitent tout ça, ils s'arrêtent instantanément. En un milliardième de seconde.
Quand vous ouvrez la porte, très bien.
La musique est totalement arrêtée et donc ça veut dire qu'aucune onde ne va vous arriver sur vous.
Bon, alors dans un instant, on va faire un info intox. Parce qu'on nous parle du cerveau, il y en a qui s'angoissent quand même. Ils disent à un moment donné, ça fait danser aussi mes neurones. Non mais arrêtez de lever les yeux au ciel, vous allez nous répondre dans un instant. On va savoir si on peut vraiment réchauffer son lait pour bébé. Certains parents s'inquiètent au micro-ondes, vous nous répondrez dans un instant. Et puis voilà, comment le gérer, la nourriture qui est brûlante. Parfois c'est le contenant, parfois c'est le contenu. C'est un peu bizarre tout ça, moi je trouve. Hein. On se retrouve tout de suite sur RTL.
Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
Daniel Moquet recrute actuellement plus de 380 apprentis paysagistes dans toute la France. Déposez votre CV lors de notre journée Job et Avenir, samedi 8 février, dans l'agence Daniel Moquet proche de chez vous.
RTL.
jusqu'à 10h sur RTL.
Nous voilà bien, Flavie Flamand.
Dans un instant, vous écouterez les conseils de Yann Gillard, ancien sapeur-pompier, sur les gestes qui sauvent à la maison. C'est hyper important de les écouter. Grâce à Alexandre Loukil, j'ai un super forfait avec un super téléphone. Mais pour l'heure, on continue à parler des ondes et du micro-ondes avec le professeur Jean-Michel Courty.
Comment t'atteindre en sensuel, toi qui me donnes.
Je ne sais pas si le micro-ondes les a sensuels. Enfin, en tout cas, moi, ça ne me fait pas beaucoup d'effet. Et parfois, je me méfiais même du micro-ondes. Et grâce à vous, justement, professeur Jean-Michel Courty, vous êtes prof de physique à Sorbonne Université. Bah, j'apprends qu'en fait, je n'ai pas à avoir peur de mon micro-ondes, en tout cas sur la qualité de mes aliments. Yann Gillard, vous étiez en train de noter en plus un plus, je dirais, une qualité au micro-ondes.
Et oui, parce que quand on achète un plat tout préparé, surgelé,
enfin,
par exemple,
transformé et tout, c'est, ouais, tout, c'est
ou,
pas bon.
Ou autre chose, voilà, ouais. Et on se rend compte que le délai de cuisson, le temps de cuisson est inscrit sur les paquets souvent, et on voit qu'au micro-ondes c'est beaucoup plus court que quand on le cuit. Donc est-ce qu'on fait des économies d'énergie?
Ah, tout à fait, puisque dans le four micro-ondes, comme vous allez chauffer directement l'eau qu'il y a dans l'aliment, vous n'avez pas besoin de chauffer la plaque chauffante, vous n'avez pas besoin de chauffer la casserole.
Bah oui, moi c'est ce que je fais.
Et ensuite, quand vous chauffez la casserole, il y a aussi la chaleur qui s'en va par les parois de la casserole, dans l'air, etc. Là, vous allez chauffer à cœur. Mmh. Donc ça veut dire que toute l'énergie que vous payez à votre fournisseur d'électricité, elle sert à chauffer votre plat et elle ne sert pas à chauffer la pièce.
Non, comment on va faire péter les micro-ondes là ce week-end, vous allez voir. Alors, info intox, ça va peut-être vous paraître complètement bizarre, mais les questions se posent. Il paraît que ça grille les neurones quand on s'en approche.
Alors, non.
D'accord.
Alors pourquoi non? Parce qu'il n'y a pas d'ondes qui sortent.
D'accord. Donc ça reste dans le four.
Juste un petit point. Le micro-ondes, c'est une boîte. Alors, ce que vous voyez, c'est qu'il y a toutes les faces de la boîte avec des plaques de métal. Vous vous dites, OK, là, c'est tranquillou, ça ne va pas passer. Et puis, il y a ce truc devant de fenêtre où on se dit, oh là là, il y a des petits trous et tout ça. Eh bien, en fait, pour les micro-ondes, c'est comme s'il y avait une plaque de métal. Vous avez déjà vu les radars qu'il y a dans les aéroports. Mmh. D'accord, les radars, vous avez, c'est des trucs en grillage qu'il y a derrière. Et ben ces trucs en grillage qu'il y a derrière, c'est des miroirs. C'est fait pour envoyer, réenvoyer les ondes radar vers les avions. Donc on veut pas que ça traverse. Et ben c'est la même chose. Le grillage qu'il y a dans la porte, c'est quelque chose qui renvoie toutes les micro-ondes.
Ok, alors dans ce cas-là, si j'ai une porte défectueuse et tout, est-ce que les ondes, elles peuvent sortir?
Ah ben c'est comme pour une voiture.
Non, mais si vous avez l'intérêt d'avoir un appareil en bon état.
Ah ben de toute façon oui, comme pour tous les appareils. Si vous avez une voiture avec un pneu moitié dégonflé, le moteur qui marche pas bien, c'est dangereux de la prendre. Donc effectivement, un four micro-ondes qui est pas en bon état, ça va être dangereux. Parce qu'effectivement, un four qui est pas en bon état, si le joint il est pas bien, si la porte elle est disjonctée, les ondes là elles vont sortir, puis ça va pas être cool. Hein.
Le lait, ah ben non, tu m'étonnes. Et, non, alors attends, qu'est-ce qui nous arriverait, tiens?
Bah, vous allez petit à petit sentir une certaine chaleur, en fait. C'est ce qui s'est passé à l'inventeur du four micro-ondes.
Ah bon,
en fait, il travaillait sur les radars.
Pauvre garçon.
Et ben, il travaillait sur les radars. Et puis, en fait, quand il passait devant les radars, de temps en temps, il sentait des sensations un petit peu bizarres, d'échauffement et tout ça.
C'est peut-être sympa, non?
Voilà. Et puis, la légende veut qu'il avait une barre de chocolat dans sa poche et qu'il s'aperçut que la barre de chocolat avait fondu.
Arrête. Bon. Et du coup, ça a fait un four.
Et donc, il s'est dit, tiens, peut-être que notre émetteur pour les radars, et ben, on pourrait s'en servir pour chauffer les aliments.
Incroyable. Le lait pour bébé au micro-ondes, le seul danger, c'est de se brûler?
Alors, c'est un vrai danger, oui, effectivement, de se brûler. Parce
ou de
que,
brûler le bébé, surtout.
Ou de brûler le bébé, parce qu'en fait, vous chauffez l'eau, mais vous ne chauffez pas le récipient en verre. Et le récipient en verre des biberons, pour être solide, il est particulièrement épais. Donc, ça veut dire que quand vous avez des verres qui sont un petit peu minces, l'eau qui a chauffé peut chauffer le verre, et puis quand vous touchez la tasse, vous le sentez. Les biberons, c'est tellement épais que vous ne sentez pas...
C'est
que ça,
ça
a chauffé.
Ouais.
Et ensuite, le micro-ondes, ça chauffe pas de manière parfaitement régulière. Il y a des endroits qui peuvent être plus chauds, des endroits qui sont un petit peu moins chauds. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir un endroit qui est super chaud et avec le récipient, on s'en aperçoit pas. Donc en fait, c'est ça le danger majeur du four micro-ondes, c'est de se brûler.
Voilà, parce que moi, j'allais vous dire, parfois, quand je m'en sers, il y a certains contenants, je les prends, ils me brûlent et l'intérieur est carrément pas réchauffé. Et parfois, c'est l'inverse.
Alors, la pratique normale, c'est que le récipient soit froid. Ensuite, il y a certaines céramiques, ça veut dire que si vous avez des récipients qui chauffent, ça veut dire que c'est des récipients qui ne sont pas adaptés pour l'utilisation.
Et c'est dangereux,
micro-ondes.
Ça ?
Non, c'est pas dangereux. C'est dommage que de se servir de cette énergie pour chauffer le récipient plutôt que pour chauffer les aliments.
Ah oui, bah je vous confirme.
Voilà.
D'accord.
Mais un plat en céramique. Les trucs en céramique souvent ils chauffent vraisemblablement parce qu'il y a de l'eau qui est rentrée. Vous voyez, il y avait une petite fissure, il y a l'eau qui rentre dans la céramique et après quand vous chauffez, ça chauffe l'eau qu'il y a dans la céramique de l'appareil.
Donc quand j'utilise vraiment du bon matériel, le contenant ne brûle pas.
Non.
OK.
absorber, poser un garrot et respirer. Oh, 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 oh. À la grimace et défibriller, trois gestes qui peuvent tout changer.
C'est une chanson des pompiers du Var. On les embrasse d'ailleurs. Vous la connaissez justement,
non,
Yann Gillard ?
Non, je ne connaissais pas celle-ci.
Pour sensibiliser aux gestes qui sauvent. C'est bien aussi d'apprendre les gestes qui sauvent en chanson. Yann Gillard, merci d'être avec nous. C'était intéressant tout ce qu'ont dit vos partenaires aujourd'hui.
Absolument. Ah. J'ai appris plein de choses. Et du coup, le micro-ondes, je vais certainement voir un à la maison.
Ah bah voilà,
parce
vous
que
voyez.
Je n'en avais pas.
Eh bah voilà, vous allez changer d'opérateur téléphonique. Et en plus de ça, vous allez changer de four. Donc
vrai.
Ça, c'est quand même génial. Bon, en attendant, des accidents domestiques, il y en a beaucoup, justement. Et les brûlures, il faut y penser. On en a parlé la semaine dernière, les brûlures. C'est hyper important. On le répète, quand on se brûle avec un four à micro-ondes ou autre chose, on met la partie brûlée sous l'eau, température ambiante.
Exactement,
l'eau assez longtemps pour que ça cesse de cuire.
Exactement.
Très bien, ok. Bon, ça c'est une chose. Il y en a souvent des accidents domestiques dans les cuisines comme ça, à cause des fours ?
Alors la cuisine est un lieu où il y a effectivement pas mal d'accidents domestiques.
Ouais.
Le record étant la chambre, ce qui paraît assez contradictoire.
Mais qu'est-ce qui se passe dans,
c'est dans la chambre
qu'on a,
eh bien,
Monsieur
on glisse sur les tapis. Et donc comme dans les accidents domestiques, ce sont les personnes âgées qui sont les plus touchées.
Très bien.
Eh bien, c'est la raison pour laquelle on a plus d'accidents domestiques graves, et voire mortels, dans la chambre. Mais la cuisine reste un endroit où effectivement on a beaucoup de dangers. Et il faut faire très attention.
Bon, en tout cas, on le rappelle, il y a 4,5 millions de Français qui sont victimes chaque année d'accidents domestiques. Et il y a de nombreuses vies, hein, évidemment, qui pourraient être sauvées avec les gestes qui sauvent. Il y a 15 jours, vous nous avez expliqué quoi faire en cas de coupure, d'intoxication, de brûlure, je le disais, et de noyade. Tous les conseils, d'ailleurs, sont à retrouver sur RTL.fr. Et cette semaine, j'aimerais qu'on évoque donc ces fameuses chutes dont vous nous parliez il y a un instant. Qu'est-ce qu'on fait si l'un de nos proches, notre mari, notre épouse, se lève le matin et glisse sur le parquet ou dans les escaliers ?
Alors, lorsqu'on tombe au sol, effectivement, il y a des risques de fractures qui sont importantes. Globalement, on demande de ne pas forcément mobiliser la victime et de ne pas trop bouger les membres qui seraient éventuellement cassés. C'est le risque le plus important. Ce qui est important, c'est de parler aussi du traumatisme de la tête. On avait évoqué, du coup, un enfant qui tombe par terre et qui se cogne la tête. Globalement, à partir du moment où les gens se relèvent spontanément tout seuls, voire qu'ils pleurent ou qu'ils se tiennent la tête, c'est déjà un peu rassurant. Même si c'est un peu traumatisant, on va considérer des cas de gravité quand même. Il faut être capable d'analyser la situation et de voir les cas de figure un peu graves, notamment le vomissement par exemple, la perte de connaissance qui pourrait être des fois très brève, et notamment eh bien, effectivement, l'impotence fonctionnelle, ne pas pouvoir bouger un membre, etc.
Alors, on va se retrouver dans un instant, on va revenir dans le détail. On va parler également d'électrocution, parce que ça, c'est le truc tout con. Mais, tiens, notre professeur de chimie va être d'accord. Et puis, vous savez, ces enfants, on en parlait aussi, hein, mais qui avalent parfois un capuchon de stylo. Qu'est-ce qui vous fait marrer dans ce studio ? Bon, c'est pas grave, on est de bonne humeur. On se retrouve tout de suite pour la suite de Nous voilà bien.
Depuis Flavie Flamand sur RTL, Nous voilà bien.
Chouette alors, j'ai un forfait téléphonique adapté grâce à vous Alexandre Loukil. Je vais me faire des petits brocolis au micro-ondes grâce à vous Jean-Michel Courty. Et on continue notre aventure avec les gestes qui sauvent.
Tu peux compter sur moi.
Vous arrivez avec votre guitare, vous chantez justement comme Louis Chédid, tu peux compter sur moi quand on a un petit problème et qu'on se casse la figure dans sa chambre, Yann Gillard ?
Alors, pas forcément, mais...
Pas avec votre gratte et tout, tu peux compter sur moi.
On essaie d'être rassurant au maximum.
Voilà, alors, donc, pour être rassurant, c'est justement connaître, je dirais, les gestes qui sauvent pour être rassurant auprès d'une victime. Victime de chute, vous nous l'avez dit, une personne tombe, il faut guetter les premiers symptômes, les vomissements, la perte de connaissance, le trauma crânien, en fait.
Et exactement, voilà, on ne va pas systématiquement appeler le SAMU ou aller aux urgences de l'hôpital à chaque fois qu'on tombe, heureusement d'ailleurs, sinon les urgences sont déjà fortement inondées, donc on va souvent rester à la maison, mais il faut surveiller quelqu'un, si on prend un enfant qui est tombé et qui s'est cogné la tête, ce qui est très important, c'est de garder un œil un peu vigilant et d'avoir une surveillance sur justement l'enfant ou même une personne âgée.
Mais dans
qui
les heures
tombée.
Qui suivent, quoi.
Voilà, soit tout de suite. Et on a des signes quand même de gravité qu'il faut surveiller. Donc on parle du vomissement, des maux de tête importants. On peut avoir également cette perte de connaissance. Elle est souvent des fois assez difficile à percevoir. On peut avoir une perte de connaissance qu'on parle de perte de connaissance initiale qui est très brève. L'envie de somnoler aussi, de grosse fatigue juste après la chute. Et ça, c'est un signe de gravité. Donc, il va falloir, dans ces cas-là, appeler le 15, et puis de manière à pouvoir consulter, parce que ça peut occasionner des choses importantes à l'intérieur, donc du crâne.
D'accord.
Il faut quand même éviter d'avoir une complication par la suite. Donc, on ne va pas laisser s'endormir un enfant qui est tombé sur la tête, par exemple. On va essayer de le stimuler de manière à ce qu'il ne s'endorme pas tout de suite après la chute.
D'accord, ok. Donc, ça, c'est une chose. Ensuite, la personne qui est au sol, donc vous nous l'avez dit, on ne la bouge pas.
Voilà, alors. Quand on est une personne qui ne se relève pas spontanément, c'est que effectivement elle a mal. Mmh. Alors soit il y a une fracture, et auquel cas sur un membre. Dans ces cas-là, on va éviter de bouger la fracture. Mmh. On va lui demander de pas bouger, on va appeler les secours, et on va surtout ne pas non plus réaligner quoi que ce soit. On évite de toucher la victime et on lui demande de pas bouger.
Même dans un escalier ?
Même dans un escalier, c'est compliqué. On va bouger une victime qui a des fractures, on pourrait aggraver la situation si on ne sait pas ce qu'on fait. Donc, il vaut mieux la laisser dans la position où elle se trouve et éviter de la bouger. Alors, on va parler du traumatisme de la colonne vertébrale, qui est quelque chose qui nous fait peur à tous. Il faut savoir quand même que lorsque les secours arrivent sur des interventions, 80% des traumatisés de la colonne vertébrale sont debout. Donc, vous voyez, on n'est pas aussi fragile que ça. Il ne faut pas non plus psychoter avec ça. Mais il faut quand même faire attention. Donc, quelqu'un qui ne bougerait pas et qui se plaint d'une douleur au niveau de la nuque et qui a du mal à bouger, on va même d'ailleurs lui demander de ne pas bouger. On va même lui maintenir la tête avec les mains s'il le faut, de manière à éviter la mobilisation de ce traumatisme, enfin des cervicales. Voilà. D'accord. Donc, on va essayer de lui tenir la tête pour pas qu'il bouge. D'accord. Ça, c'est important. Alors, évidemment, entre-temps, on appelle rapidement les secours. Si on sait pas trop quoi faire, les secours vont nous conseiller, vont nous dire quoi faire. Mais quelqu'un qui se relève pas spontanément, ça nécessitera certainement une évacuation par les secours.
Ok. Les secours, le 15 et le 112.
Alors,
ou le 112.
Il y a des grosses polémiques, justement j'en profite pour en parler. En ce moment, tout le monde ne sait pas, je fais le 15, je fais le 18. Dans les formations, on va majoritairement dire qu'il faut faire le 15. Ceux qui ont fait plusieurs fois les services
15,
d'urgence...
15, c'est le SAMU, 18 pompiers, oui.
Exactement. On a des fois des délais d'attente qui sont très longs. Alors moi, je revendique le 112, parce que quand on ne sait pas trop, on fait le 112. Et globalement... régionalement, ceux qui décrochent au 112, c'est ceux qui sont le plus dimensionnés pour décrocher rapidement. Et au moins, comme ça, il n'y a pas de débat. On fait le 112, on aura
après,
quelqu'un qui va
décrocher. Et après, eux ventilent, quoi. Hein,
exactement.
Et
dans tous les cas, les numéros d'urgence sont interconnectés. Donc, si je veux très la police, bien. Le SAMU ou les pompiers, en faisant le 112, dans tous les cas, j'aurai une réponse.
Le 112-112. Notre conjoint a touché le sèche-cheveux branché avec les mains mouillées et il s'électrocute. Voilà, qu'est-ce que je peux faire, là?
Alors l'électrocution, là il faut discerner deux choses. Hein. C'est l'électrocution, ce qui veut dire que la personne n'est déjà plus consciente, elle a perdu connaissance, elle est peut-être en train de mourir. Et on a l'électrisation. On a tous pris
un coup de jus.
Hein,
J'ai
attrapé une châtaigne.
Ouais,
voilà.
Exactement.
On a du 220 volts dans les prises de courant. Ouais. C'est l'intensité qui va surtout qui va tuer principalement. La tension va brûler. Donc on a des risques majeurs et on peut sans aucun problème. Enfin malheureusement, on peut mourir avec l'électricité qu'on a dans les prises de courant à la maison. Donc c'est extrêmement dangereux. On a à peu près 200 morts par an dues à des électrocutions. Donc c'est quand même pas rien. Et on a plus de 6000 personnes qui sont électrisées, qui sont pas mortes, mais avec des séquelles graves. Donc c'est quand même pas neutre. On ne consulte pas chaque fois qu'on a pris du courant, mais il va falloir aussi observer encore la personne qui a pris du courant. Est-ce qu'elle se sent fatiguée? Est-ce qu'elle est pâle? Est-ce qu'elle a des sueurs? Des sensations d'agitement, etc. Auquel cas, ça veut dire que c'est un signe de gravité. Il va falloir y aller parce qu'à chaque fois, le courant passe par le cœur, qui est en plein milieu de la cage thoracique. Et du coup, on peut avoir des dégâts. Il faudra un électrocardiogramme de contrôle pour être sûr qu'on n'a pas de problème grave.
Mon enfant avale un capuchon. Vous voyez, il joue avec un stylo et tout, et paf, il avale le capuchon ou un autre petit objet comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, rapidement, la méthode de Heimlich, c'est ça?
Alors, avant de faire Heimlich, on va taper dans le dos avec ses mains entre les omoplates assez fortement de manière à créer une pression et à faire sortir l'objet. Alors, deux cas de figure. Hein. Soit on a une obstruction totale, c'est-à-dire que la personne ne peut pas parler, devient rouge, porte éventuellement ses mains à sa gorge, la bouche ouverte, il n'y a pas un son qui sort. Là, on parle d'obstruction totale et il faut aller taper dans le dos cinq fois de manière à créer une pression et faire sortir l'objet, créer une toux. Voilà. Et puis, si ça ne marche pas, on fera la méthode de Heimlich, où on va comprimer au niveau de l'abdomen.
Donc, je passe derrière.
À peu près au niveau du nombril.
La personne, c'est ça.
Exactement.
Je l'enlace.
Oui.
Et je mets mes poings au niveau de son
ventre.
De son
abdomen, voilà. Au-dessus du nombril. Alors, pour une personne âgée. Par contre, pour une personne obèse ou une femme enceinte, on va comprimer au niveau du thorax. Et okay. pour un tout petit, un bébé, on va également comprimer au niveau du thorax. On n'appuie pas sur l'abdomen, sur un bébé.
Et là, il faut appuyer fort ?
Alors, on va appuyer fort. Si on veut que ça sorte, il faut appuyer fort.
Il ne faut pas avoir peur.
Il faut pas avoir peur d'appuyer.
Ah ouais, c'est ça.
On va, la personne qui a une obstruction totale peut mourir extrêmement vite. En quelques secondes, ça va être trop tard. Donc, il ne faut pas avoir peur de taper fort. Il faut absolument faire sortir cet objet.
Et dans les trois quarts du temps, on y arrive ?
Avec et ça marche,
Amish,
c'est extrêmement efficace. Voilà, les claques dans le dos seulement sont très efficaces.
Voilà.
Un petit, on lui met la tête en bas, les jambes vers le haut, et on va taper entre les omoplates avec sa main, et ça va être très efficace. Et on a l'obstruction partielle, où la personne va, elle, être capable de parler, a une respiration un petit peu bizarre, mais elle est capable de parler, donc du coup, c'est ce qu'on appelle une obstruction partielle. Dans ces cas-là, on va juste la laisser assise ou à demi-assise contre par terre, et on va lui demander de tousser. On va l'inviter à tousser pour faire sortir, expectorer le corps étranger qui est à l'intérieur. On évite de trop bouger parce que ça peut se transformer en une obstruction totale si jamais on manipule la victime et que ça descende plus bas.
Bon, alors maintenant que vous nous avez sauvé la vie, on s'embrasse quand même. Hein. Merci beaucoup Alexandre Loukil d'avoir accepté notre invitation, de nous avoir à ce point renseigné. Je rappelle donc le site capital.fr. À bientôt Alexandre. Bon bah professeur, vous êtes super sympa. Parce que moi mes profs de physique, je peux vous assurer que je ne les portais pas dans mon cœur comme je vous porte dans mon cœur aujourd'hui. Jean-Michel Courty, merci. Chronique mensuelle Idées de physique, depuis 20 ans dans la revue Pour la Science, et puis vous êtes auteur du livre En avant la physique aux éditions Belin. Merci professeur.
Merci.
Merci Yann Gillard. Merci beaucoup à vous. Je rappelle que vous êtes dirigeant de SP Enseignement, un organisme de prévention des dangers justement domestiques. À bientôt.
À
merci.
Bientôt, Flavie.
Si vous n'avez pas tout retenu de cette émission, eh bien rendez-vous sur le replay sur RTL.fr et sur nos réseaux sociaux. Moi, je vous souhaite évidemment un très bon week-end à l'écoute d'RTL et je vous donne rendez-vous lundi dès 14h30. C'est notre nouvel horaire pour En effet pour s'entendre, le magazine du partage et de la réflexion. Et puis la semaine prochaine, dans Nous voilà bien, on vous prépare une émission au poil. Vous découvrirez la vérité sur les produits de rasage. Oui, messieurs, oui, mesdames. Vous saurez si l'épilation définitive est vraiment, vraiment une bonne idée. Et puis dans la catégorie cuisine, les tartes n'auront plus de secret pour vous. Allez, moi je vous souhaite un très bon week-end à l'écoute d'RTL. Prenez soin de vous, je vous embrasse, merci.